Chapitre 268. La mort de Monsieur d'Artagnan. Contrairement à ce qui arrive toujours, soit en politique, soit en morale, chacun tint ses promesses et fit honneur à ses engagements. Le roi appela Monsieur de Guiche et chassa Monsieur le chevalier de Lorraine, de telle façon que Monsieur en fit une maladie. Madame partit pour Londres, où elle s'appliqua si bien à faire goûter à Charles II, son frère, les conseils politiques de Mademoiselle de Kerouac, que l'alliance entre la France et l'Angleterre fut signée, et que les vaisseaux anglais, lestés par quelques millions d'or français, firent une terrible campagne contre les flottes des Provinces unies. Charles II avait promis à Mademoiselle de Kerouac un peu de reconnaissance pour ses bons conseils, il la fit duchesse de Portsmouth. Colbert avait promis au roi des vaisseaux, des munitions et des victoires. Il tint parole comme on sait. Enfin Aramis, celui de tous sur les promesses duquel on pouvait le moins compter, écrivit à Colbert la lettre suivante au sujet des négociations dont il s'était chargé à Madrid. « Monsieur Colbert, j'ai l'honneur de vous expédier le révérend père d'Oliva, général par intérim de la Société de Jésus, mon successeur provisoire. Le révérend père vous expliquera, monsieur Colbert, que je garde la direction de toutes les affaires de l'ordre qui concernent la France et l'Espagne, mais que je ne veux pas conserver le titre de général qui jetterait trop de lumière sur la marche des négociations dont sa majesté catholique veut bien me charger. Je reprendrai ce titre par l'ordre de sa majesté quand les travaux que j'ai entrepris, de concert avec vous, pour la plus grande gloire de Dieu et de son Église, seront menés à bonne fin. Le révérend père d'Oliva vous instruira aussi, monsieur, du consentement que donne sa majesté catholique à la signature d'un traité qui assure la neutralité de l'Espagne dans le cas d'une guerre entre la France et les Provinces unies. Ce consentement serait valable même si l'Angleterre, au lieu de se porter active, se contentait de demeurer neutre. Quant au Portugal dont nous avions parlé, vous et moi, monsieur, je puis vous assurer qu'il contribuera de toutes ses ressources à aider le roi très chrétien dans sa guerre. Je vous prie, monsieur Colbert, de me vouloir garder votre amitié, comme aussi de croire à mon profond attachement et de mettre mon respect aux pieds de sa majesté très chrétienne. Signé, le duc d'Alameda. Aramis avait donc tenu plus qu'il n'avait promis. Il restait à savoir comment le roi, M. Colbert et M. d'Artagnan seraient fidèles les uns aux autres. Au printemps, comme l'avait prédit Colbert, l'armée de terre entra en campagne. Elle précédait, dans un ordre magnifique, la cour de Louis XIV, qui, parti à cheval, entouré de carrosses pleins de dames et de courtisans, menait à cette fête sanglante l'élite de son royaume. Les officiers de l'armée n'eurent, il est vrai, d'autres musiques que l'artillerie des forts hollandais. Mais ce fut assez pour un grand nombre qui trouvèrent dans cette guerre les honneurs, l'avancement, la fortune ou la mort. M. d'Artagnan partit, commandant un corps de 12 000 hommes, cavalerie et infanterie, avec lequel il eut ordre de prendre les différentes places qui sont les nœuds de ce réseau stratégique qu'on appelle la Frise. Jamais armée ne fut conduite plus galamment à une expédition. Les officiers savaient que le maître, aussi prudent, aussi rusé qu'il était brave, ne sacrifierait ni un homme ni un pouce de terrain sans nécessité. Il avait les vieilles habitudes de la guerre, vivre sur le pays, tenir le soldat chantant, l'ennemi pleurant. Le capitaine des mousquetaires du roi mettait sa coquetterie à montrer qu'il savait l'état. On ne vit jamais occasion mieux choisie, coup de main mieux appuyé, faute de l'assiéger mieux mise à profit. L'armée de D'Artagnan prit 12 petites places en un mois. Il en était à la 13e et celle-ci tenait depuis 5 jours. D'Artagnan fit ouvrir la tranchée sans paraître supposer que ces gens-là pussent jamais se rendre. Les pionniers et les travailleurs étaient, dans l'armée de cet homme, un corps rempli d'émulation, d'idées et de zèle, parce qu'il les traitait en soldats, savait leur rendre la besogne glorieuse et ne les laissait jamais tuer que quand il ne pouvait faire autrement. Aussi fallait-il voir l'acharnement avec lequel il retournait les marécageuses glèbes de la Hollande. Ses tourbières et ses glaises fondaient, au dire des soldats, comme le beurre aux vastes poils des ménagères frisonnes. M. d'Artagnan expédia un courrier au roi pour lui donner avis des derniers succès, ce qui redoubla la belle humeur de Sa Majesté et ses dispositions à bien fêter les dames. Ces victoires de M. d'Artagnan donnaient tant de majesté au prince que Madame de Montespan ne l'appela plus que Louis l'Invincible. Aussi Mademoiselle de la Vallière, qui n'appelait le roi que Louis le Victorieux, perdit-elle beaucoup de la faveur de Sa Majesté. D'ailleurs, elle avait souvent les yeux rouges, et pour un invincible, rien n'est aussi rebutant qu'une maîtresse qui pleure, alors que tout sourit autour de lui. L'astre de Mademoiselle de la Vallière se noyait à l'horizon dans les nuages et les larmes. Mais la gaieté de Madame de Montespan redoublait avec les succès du roi et le consolait de toute autre disgrâce. C'était à D'Artagnan que le roi devait cela. Sa Majesté voulut reconnaître ses services. Il écrivit à M. Colbert. « Monsieur Colbert, nous avons une promesse à remplir envers M. d'Artagnan qui tient les siennes. Je vous fais savoir qu'il est l'heure de s'y exécuter. Toutes provisions à cet égard vous seront fournies en temps utile. » Louis. En conséquence, Colbert, qui retenait près de lui l'envoyé de D'Artagnan, remit à cet officier une lettre de lui, Colbert, pour D'Artagnan, et un petit coffre de bois d'ébène incrusté d'or, qui n'était pas fort volumineux en apparence, mais qui sans doute était bien lourd, puisqu'on donna au messager une garde de 5 hommes pour l'aider à le porter. Ces gens arrivèrent devant la place qu'assiégeait M. d'Artagnan vers le point du jour, et ils se présentèrent au logement du général. Il leur fut répondu que M. d'Artagnan, contrarié d'une sortie que lui avait faite la veille le gouverneur, homme sournois, et dans laquelle on avait comblé les ouvrages, tué 77 hommes et commencé à réparer une brèche, venait de sortir avec une dizaine de compagnies de grenadiers pour faire relever les travaux. L'envoyé de M. Colbert avait ordre d'aller chercher M. d'Artagnan partout où il serait, à quelque heure que ce fût du jour ou de la nuit. Il s'achemina donc vers les tranchées, suivi de son escorte, tous à cheval. On aperçut en pleine découverte M. d'Artagnan, avec son chapeau galonné d'or, sa longue canne et ses parements dorés. Il mâchonnait sa moustache blanche et n'était occupé qu'à secouer, avec sa main gauche, la poussière que jetaient sur lui, en passant, les boulets qui effondraient le sol. Aussi, dans ce terrible feu qui remplissait l'air de sifflement, voyait-on les officiers manier la pelle, les soldats rouler les brouettes et les vastes fascines, s'élevant portées ou traînées par 10 à 20 hommes, couvrir le fond de la tranchée, rouverte jusqu'au cœur par cet effort furieux du général animant ses soldats. En 3 heures, tout avait été rétabli. D'Artagnan commençait à parler plus doucement. Il fut tout à fait calmé quand le capitaine des pionniers vient lui dire, le chapeau à la main, que la tranchée était logeable. Cet homme eut à peine achevé de parler qu'un boulet lui coupa une jambe et qu'il tomba dans les bras de D'Artagnan. Celui-ci releva son soldat et, tranquillement, avec toutes sortes de caresses, il le descendit dans la tranchée, aux applaudissements enthousiastes des régiments. Dès lors, ce ne fut plus une ardeur mais un délire. 2 compagnies se dérobèrent et coururent jusqu'aux avant-postes, qu'elles eurent culbutées en un tour de main. Quand leurs camarades, contenus à grand-peine par D'Artagnan, les virent logés sur les bastions, ils s'élancèrent aussi, et bientôt un assaut furieux fut donné à la contrescarpe, d'où dépendait le salut de la place. D'Artagnan vit qu'il ne lui restait qu'un moyen d'arrêter son armée, c'était de la loger dans la place. Il poussa tout le monde sur 2 brèches, que les assiégés s'occupaient à réparer. Le choc fut terrible. 18 compagnies y prirent part, et D'Artagnan se porta avec le reste à une demi-portée de canon de la place pour soutenir l'assaut par échelon. On entendait distinctement les cris des Hollandais poignardés sur leurs pièces par les grenadiers de D'Artagnan. la lutte grandissait de tout le désespoir du gouverneur qui disputait pied à pied sa position contre M. de Fario, baron de Mende. D'Artagnan, pour en finir et faire éteindre le feu qui ne cessait point, envoya une nouvelle colonne qui troua comme une vrille les portes encore solides, et l'on aperçut bientôt sur les remparts, dans le feu, la cour s'effarée des assiégés, poursuivie par les assiégeants. C'est à ce moment que le général, respirant et plein d'allégresse, entendit, à ses côtés, une voix qui lui disait « Monsieur, s'il vous plaît, de la part de M. Colbert !» Il rompit le cachet d'une lettre qui renfermait ces mots. « Monsieur d'Artagnan, le roi me charge de vous faire savoir qu'il vous a nommé maréchal de France en récompense de vos bons services et de l'honneur que vous faites à ses armes. Le roi est charmé, monsieur, des prises que vous avez faites. Il vous commande surtout de finir le siège que vous avez commencé, avec bonheur pour vous et succès pour lui. » D'Artagnan était debout, le visage échauffé, l'œil étincelant. Il leva les yeux pour voir les progrès de ses troupes sur ses murs tout enveloppés de tourbillons rouges et noirs. « J'ai fini, » répondit-il au messager. « La ville sera rendue dans un quart d'heure. » Il continua sa lecture. « Le coffret, monsieur d'Artagnan, est mon présent à moi. Vous ne serez pas fâché de voir que, tandis que vous autres, guerriers, vous tirez l'épée pour défendre le roi, j'anime les arts pacifiques à vous orner des récompenses dignes de vous. Je me recommande à votre amitié, monsieur le maréchal, et vous supplie de croire à toute la mienne. Colbert. » D'Artagnan, ivre de joie, fit un signe au messager qui s'approcha, son coffret dans les mains. Mais au moment où le maréchal allait s'appliquer à le regarder, une forte explosion retentit sur les remparts et appela son attention du côté de la ville. « C'est étrange, dit d'Artagnan, que je ne vois pas encore le drapeau du roi sur les murs et qu'on n'entende pas battre la chamade. » Il lança 300 hommes frais sous la conduite d'un officier plein d'ardeur et ordonna qu'on bâtît une autre brèche. Puis, plus tranquille, il se retourna vers le coffret que lui tendait l'envoyé de Colbert. C'était son bien, il l'avait gagné. D'Artagnan allongeait le bras pour ouvrir ce coffret, quand un boulet, parti de la ville, vint broyer le coffre entre les bras de l'officier, frappa d'Artagnan en pleine poitrine et le renversa sur un talus de terre, tandis que le bâton fleur-de-lysé, s'échappant des flancs mutilés de la boîte, venait en roulant se placer sous la main défaillante du maréchal. D'Artagnan essaya de se relever. On l'avait cru renversé sans blessure. Un cri terrible partit du groupe de ses officiers épouvantés. Le maréchal était couvert de sang. La pâleur de la mort montait lentement à son noble visage. Appuyé sur les bras qui, de toutes parts, se tendaient pour le recevoir, il put tourner une fois encore ses regards vers la place et distinguer le drapeau blanc à la crête du bastion principal. Ses oreilles, déjà sourdes au bruit de la vie, perçurent faiblement les roulements du tambour qui annonçait la victoire. Alors, serrant dans sa main crispée le bâton de velours brodé de fleurs de lys d'or, il abaissa vers lui ses yeux qui n'avaient plus la force de regarder au ciel, et il tomba en murmurant ces mots étranges qui parurent aux soldats surpris autant de mots cabalistiques, mots qui avaient jadis représenté tant de choses sur la terre et que nul, excepté ce mourant, ne comprenait plus. Athos, Porthos, au revoir. Aramis, à jamais, adieu. Des 4 vaillants hommes dont nous avons raconté l'histoire, il ne restait plus qu'un seul corps. Dieu avait repris les âmes.